Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 12 juillet 2022. Comme d'habitude, je suis hyper content de vous retrouver et vous savez pas quoi? Il est de retour! Bon, pour être franc, il n'était pas encore complètement parti, hein, mais c'est vrai que c'est assez marrant quand on voit la semaine qu'on a eue la semaine dernière et ce qu'on vit déjà depuis hier matin. En fait, finalement, on est déjà retourné dans notre période d'angoisse et de terreur par rapport à tout ce qui pourrait nous arriver. Tout ce qui pourrait nous arriver parce que finalement, eh bien, on a les chiffres du CPI demain et donc il y a la peur du CPI. Mais il n'y a pas que ça. On est revenu de notre thématique de l'inflation. On a peur de la récession. On a peur d'un excès d'inflation. On a peur d'une réaction de la Banque Centrale Américaine, on a peur d'une réaction de la Banque Centrale Européenne, on a peur de l'euro-dollar qui baisse, on a peur également parce qu'il y a un nouveau virus variant, je sais plus comment on dit, la Covid BA5.2.1. Alors moi j'aimerais juste qu'on me dise, à propos des variants Covid, j'aimerais juste que les mecs qui sortaient les noms grecs à l'époque, c'était quand même vachement plus simple à identifier, parce que là, vos espèces de suites de chiffres qui rappellent un petit peu le prénom des enfants d'Elon Musk, c'est un tout petit peu pénible. Donc si on pouvait revenir à des trucs un peu plus classiques, ça éviterait d'avoir une angoisse supplémentaire. Angoisse supplémentaire donc au niveau du Covid, puisque la Chine menace de refermer de nouveau. Les mecs, ils viennent à peine d'ouvrir, ils veulent tout refermer. Et puis après également, on menace aussi, enfin ils ont annoncé qu'ils fermaient pendant une semaine les casinos à Macao. Donc tout le secteur des casinos s'est fait complètement allumer. Mais en plus, non seulement on est confiné, non seulement on a peur du Covid, non seulement on a peur de l'inflation, non seulement on a peur de la récession, mais en plus on peut même plus aller jouer au casino. Donc voilà, journée bien pourrie sur les marchés financiers hier, pas catastrophique non plus, hein. Il faut retenir que le DAX a tenu les supports, que le CAC tient aussi également ses supports, on a la trouille mais on tient quand même le choc pour l'instant, il y a encore un peu d'espoir. L'espoir il se raccroche principalement au chiffre du CPI demain, qui sait si on avait une bonne surprise? Qui sait si on avait de mauvaises surprises? C'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment dans 3-4 figures potentielles, soit on match les attentes des analystes, qui arrive à peu près jamais, soit on est nettement au-dessus, là au cas où on est vraiment au-dessus, il y a un analyste qui parlait hier matin en disant bah, si ça se produit puis qu'on a vraiment un taux d'inflation au-delà de 10% de CPI, hein, CPI au-dessus de 10%, on attend 8.8 demain, mais 10% de CPI voudrait dire 1% de hausse sur les taux d'intérêt directeurs de la Fed, 100 basis points. L'horreur totale, un truc qu'on n'a jamais vu. Donc en gros, ce serait vraiment une catastrophe. Par contre, dans l'autre sens, si tout d'un coup, on avait un CPI à 7%, alors là, ce serait l'euphorie, la Fed a réussi, le marché continue de croître, l'économie continue de croître, et puis de l'autre côté, l'inflation est maîtrisée, on lui a serré le cou, on l'a mis en prison, ça fonctionne. Donc c'est un petit peu ce qui nous attend demain, mais donc ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, depuis dimanche soir, depuis lundi matin, c'est la peur. De nouveau, la peur est de retour. On a vécu une semaine plutôt tranquille la semaine dernière, assez rassurante, assez confiant sur le fait que les matières premières étaient en baisse, donc l'inflation allait baisser. Et puis là, tout d'un coup, on est à 24 heures du CPI et ça commence un petit peu à flipper dans tous les sens. Donc du coup, mieux vaut être un trouillon vivant qu'un héros mort. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les profits sur le Nasdaq. Il est vrai qu'on était quand même remonté de 7% depuis quelques temps. Autant prendre les profits, on a fait baisser l'indice de 2,3%, autant prendre les profits avant l'annonce du CPI, parce qu'on ne sait jamais, franchement, c'est vrai qu'on s'approche plutôt d'un gros pile ou face international, plutôt que de quelque chose de fondamentalement réfléchi. Et puis alors, au-delà de l'aspect Covid en Chine, au-delà de l'aspect inflation, au-delà de l'aspect récession, on a aussi soudainement une prise de conscience qui vient autour de l'euro-dollar. Alors perso, moi, tout ce qui touche au Forex, je ne touche pas parce que je ne comprends pas. C'est déjà assez difficile d'identifier une société qui est plutôt moins mauvaise que les autres et qui pourrait éventuellement mieux performer que les autres, mais de là à identifier un pays ou une région, dans le cas de l'euro, qui pourrait mieux performer que les autres et qui donc aurait un intérêt à acheter telle ou telle monnaie. Franchement, j'y comprends rien, ça m'a jamais excité, jamais fait de Forex. Toujours est-il que là, depuis, 48 heures, 72 heures, on commence à s'inquiéter du fait que si l'euro-dollar revient à parité, il pourrait y avoir des conséquences. Forcément, du côté américain, ça va devenir de plus en plus difficile d'exporter puisque vous avez un dollar qui est cher par rapport à l'euro. Donc du coup, les mecs, ils vont quand même avoir des conséquences. Ça, on vient d'en prendre conscience. À 1,15, quand Poutine a envahi l'Ukraine, tout le monde s'en foutait. À 1,10, tout le monde s'en foutait. À 1,8, tout le monde s'en foutait. À 1,05, tout le monde s'en foutait. À 1,01, tout le monde s'en foutait. Et là, tout d'un coup, on arrive à parité. Oh my God, something is going on. Donc, du coup, on est en train de s'inquiéter et de se dire qu'est-ce qui se pourrait se passer avec l'euro. À côté, quand vous regardez simplement la courbe de l'euro depuis que l'Ukraine a été envahie par la Russie, depuis qu'on a mis des sanctions extraordinaires qui vont déranger Monsieur Poutine à fond, qui pour l'instant sont plutôt en train de nous déranger nous, enfin bon, peu importe, et depuis là, vous voyez que l'euro dollar est en train de se péter la figure, et on se demande à quel moment il va s'arrêter. L'avantage, c'est qu'à un moment donné, il va quand même devoir s'arrêter, parce que l'euro ne peut pas valoir rien du tout face au dollar américain. Mais si c'était un titre, j'ai l'impression que le truc, il va en chapter 11. Enfin, grosso modo, on est angoissé à cause de l'euro dollar, en plus du reste. La problématique du gaz nous tombe également dessus, puisqu'on a eu des discours qui viennent à droite à gauche, mais hier, on a eu Monsieur Le Maire qui nous a quand même annoncé que ça allait être très très compliqué pour trouver du gaz cet hiver. Et puis c'est vrai que pour l'instant, eh bien on voit vraiment que les sanctions économiques qui ont été mises en place par les pays occidentaux, typiquement l'Europe et les États-Unis, contre la Russie, fonctionne super bien. On a vu l'autre jour l'état de la balance commerciale allemande. On voit maintenant le cours de l'euro dollar. C'est hyper rassurant et on voit vraiment que ça fonctionne, mais top. Je sais pas qui a eu l'idée de génie de mettre ça en place, mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas contre qui ça se retourne. Et c'est vrai qu'on va de plus en plus dans une direction qui commence à faire peur, encore un truc, en direction de cet hiver. Comment on va faire cet hiver? Alors pour l'instant, ça va, il fait chaud, il fait beau, c'est même la canicule qui arrive pour les prochaines semaines. Mais globalement, on va quand même se poser des questions. Et quand on va devoir trouver des réponses, ça risque d'être un tout petit peu moins drôle. Donc ça nous fait une peur de plus. Donc grosso modo, hier c'était pas Black Monday, mais c'était plutôt Fear Monday, le lundi de la peur. Donc du coup, on a tout sorti en même temps, et on s'est dit, c'est vrai, avec les chiffres du CPI mercredi, avec le début de la saison des earnings qui commence, puisque aujourd'hui Pepsi Cola va publier ses chiffres tout à l'heure, on a plein de raisons d'avoir peur. Donc on va se laisser porter jusqu'à demain 14h30, normalement demain 14h30, publication du CPI, et là nos vies devraient changer. Hein. Comme à chaque fois qu'on attend un chiffre, à ce moment-là, tout change. Et puis après, la vie est pareil. Après, on attend autre chose. Thématique, inflation, récession, Covid, publication du troisième trimestre qui commence maintenant. Pour l'instant, les matières premières ne font pas grand-chose. Le pétrole traite autour des 102,50. Le Bitcoin tourne autour des 20 000. L'or est à 1729. Plus personne n'en veut pour l'instant. Bref, il ne se passe pas grand-chose d'autre parce qu'on attend ce qui va se passer demain. On attend de voir si on se conforte dans cette peur ou est-ce que finalement, on se dit « Ah ben non, finalement, la Fed a réussi. » Donc vraiment, pile ou face aujourd'hui, pile ou face demain, et puis on y verra un peu plus clair, j'espère, à partir de jeudi matin, on va certainement se trouver une nouvelle angoisse à travailler, mais en tous les cas, c'est dans cette direction qu'on va pour l'instant. Et franchement, hier matin, c'était pas aussi morose que ça ne l'est ce matin. D'où la couleur du t-shirt. Pour résumer, ce matin et hier, nous étions en mode trouille. Pour l'instant, les futurs sont toujours dans le rouge et ça n'augure rien de bon pour la journée à venir. Pour le reste, après, on parle pas de grand-chose. On annonce quand même que Twitter, ça continue, hein, c'est le sketch de Twitter. On a Elon Musk qui se fout de la tronche de Twitter sur Twitter, justement. On a Twitter qui hurle à la mort. On n'a pas fini de parler du sujet, mais c'est vrai qu'en ce matin, il y a également un article dans le Barron's où le journal estime que Twitter a bien d'autres souci que le non-takeover de Monsieur Elon Musk, puisqu'il va devoir commencer à regarder aussi les recettes de la publicité digitale. Et on a vu aussi que parce que tout est en train un tout petit peu de ralentir, eh bien là aussi, les recettes de la publicité digitale sont impactées. D'ailleurs, on l'a vu hier dans la baisse du marché, tout le secteur des social media se sont fait taper, Meta se sont fait taper, Snap s'est fait taper, Twitter s'est fait taper pour des raisons un petit peu différentes, mais aussi pour ce ralentissement de la publicité digitale. Le Barron's parle d'une correction potentielle sur Twitter de 30%. Donc c'est assez rassurant pour la suite. Donc on voit que c'est une bonne période pour Twitter. Et puis c'est vrai qu'on va beaucoup regarder les résultats forcément ces prochains temps. On a déjà eu également des chiffres sur Gap qui n'étaient pas bons par exemple. C'est quelque chose qui va venir beaucoup en avant ces prochains temps. C'est le comportement du consommateur. On a vu les chiffres de Gap qui étaient merdiques hier. Il n'y a pas d'autre terme. Et du coup, le CEO s'en va. La CEO quitte la boîte. Donc c'est un petit peu quelque chose qu'il va falloir s'habituer, puisque semble-t-il que dès qu'il y a un truc qui va pas, dorénavant, en tout cas à partir de maintenant, dans cette saison des résultats, eh bien on va virer les CEO dès que ça ne va pas, pour essayer de soulager le stress des actionnaires. Alors ça rappelle quand même furieusement ce qu'on a vécu en 2008, hein, parce qu'en 2008, dès qu'il y avait un problème, bam, on virait un CEO, à un directeur de banque loin tout le monde dehors. C'était la solution idéale pour essayer de calmer les foules. Et ce qui est assez rigolo, finalement, c'est que à l'époque, quand on virait les CEO, on disait « Oui, alors lui, il est parti, puis il a touché 45 millions de bonus. » Et ça énervait un tout petit peu les gens en disant « Oui, le gars, il a coulé la banque, mais en même temps, il se barre avec 50 millions. » C'est pas tellement logique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris. Aujourd'hui, on vire les CEO. Par contre, on dit plus combien ils touchent en partant. Petit point également sur les targets de milieu d'année. Nous sommes en milieu d'année et aujourd'hui, eh bien, les experts en finance sont en train d'essayer de nous dire ce qui va se passer pour les 6 prochains mois. On a déjà discuté du sujet qu'on parle quand même globalement qu'on va trouver, qu'on espère trouver un bottom entre maintenant et la fin du mois de septembre. Donc du coup, les banques d'affaires, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à sortir pour donner leur target pour la fin d'année. Comme ils ont été super bons jusqu'à maintenant, eh bien, ils vont essayer d'être encore meilleurs pour les 6 prochains mois. Donc, du coup, on a commencé à avoir quelques recommandations, quelques objectifs ajustés pour le S&P 500 pour la fin de l'année. Et vous allez le voir, c'est assez rigolo. Citibank voit 4200 sur le S&P 500. Oppenheim voit 4800 sur le S&P 500. Le Crédit Suisse pense qu'on sera à 4300. Morgan Stanley, qui est quand même le plus gros trouillard et le plus gros prudent du moment, envisage 3400. Et puis, Wells Fargo envisage qu'on reste exactement là où on est. Donc, en gros, on voit que les banques d'affaires sont en train de nous sortir des objectifs et puis que globalement, quand on fait la moyenne de tout ça, parce qu'ils ont chacun des idées différentes, mais quand on fait la moyenne de tout ça, ben, on devrait se retrouver plus ou moins là où on est aujourd'hui. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, on a vu dans les médias ces derniers jours qu'il y avait pas mal de gens qui attendaient avec impatience ces targets. Mais je rappelle que les mecs, ils sont faux depuis 6 mois. Je dis pas que moi je suis juste, hein. Je dis simplement que depuis 6 mois, tout le monde est complètement faux sur ce qui se passe sur les marchés. Mais là, par contre, on sent bien qu'on va être juste cette fois. C'est un peu comme la Fed, hein. La Fed, ils se sont complètement vautrés sur la vision sur l'inflation à la fin de l'année, mais aujourd'hui, on est confiant qu'ils savent ce qu'ils font pour les 6 prochains mois. Moi, je suis pas monstre rassuré. Et comme je suis pas monstre rassuré, ben, je me dis que finalement, on a encore peut-être un sell-off à venir. Je reviens toujours dans mon cycle de l'investisseur. On n'a peut-être pas vu complètement la panique finale et on n'a peut-être pas vu complètement, on n'est peut-être pas encore rentré dans cette phase de colère contre le gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il fallait et puis qu'on n'est pas encore en phase de reconstruction pour la suite des événements. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce Morning Bull Live du 12 juillet 2022. Nous sommes en plein été, il fait très très chaud, alors essayez de profiter quand même de la météo assez agréable du moment. Nous, on se retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, parce que même si je suis à moitié en vacances, à moitié là et à moitié pas là, je suis quand même là tous les matins avec vous. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, et puis on approche gentiment des 20 000. Alors, je vous rappelle qu'à 25 000, je suis censé me raser la tête, me couper les cheveux. Donc, ça serait bien que vous accélériez un peu le mouvement, parce que j'en ai ras-le-bol, je sais plus comment faire avec ces cheveux qui deviennent de plus en plus longs. Donc, n'oubliez pas, à 25 000, eh bien, je vais me raser la tête. Mis à part ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain. Et franchement, vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux et j'apprécie énormément que vous appréciez et j'apprécie énormément de vous revoir tous les jours. Allez, passez une très très bonne journée. On se voit demain matin. Bye bye!